tes pasteurs, tu es pas tombé de ton trône. Il y a parfois des mouvements qui font que on perd du temps, on perd des gens proches qu'on aime, etc. Mais c'est comme si Dieu reste souverain sur tout. Et c'est comme si Dieu dit connecte Grenoble, laissez-moi agir. Laissez-moi, je vais vous surprendre par mon esprit. Et Seigneur, on veut te laisser de la place, on veut te laisser agir. Merci pour ce que tu fais. Nous t'ouvrons nos cœurs. Amen et amen et amen. Que Dieu soit loué. Tom, tu veux bien venir? J'ai l'honneur de recevoir ici notre ami Thomas. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Thomas est un passionné de Dieu. Il est pasteur dans l'église Le Chandelier. C'est Philadelphie, non, mais toujours Le Chandelier, on est OK? Toujours Le Chandelier. C'est une église qui nous a bénis extraordinairement. C'est une église qui est un phare sur Grenoble depuis une trentaine d'années, qui nous a énormément bénis. Je vous parle de ça il y a 30 ans, alors que moi, j'étais même un jeune adolescent, que j'allais dans les conférences qu'organisait cette église, etc. Et Thomas est un des pasteurs qui est là-bas. Il est passionné de Jésus. Il est marié à cette merveilleuse dame qui est au fond, qui s'appelle Léa. Juste lever la main. Et si vous la voyez avec des enfants, c'est qu'ils viennent d'avoir deux jumeaux. Ça, c'est la surprise. Mais ils en avaient combien? T'en avais combien avant? Il en avait trois. Il en a. Pardon. Ah, yes. Et voilà, du coup, c'est vraiment un honneur de les avoir. Merci. On a hâte d'entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur. Sois béni, mon ami.
Merci, Jo. Je suis tout honoré d'être ici parmi vous. Je revois des têtes que je connais, d'autres que je connais pas. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu et c'est un bonheur, un privilège de pouvoir être là. Donc, assez impressionné ce matin, puis en même temps content de pouvoir partager la parole de Dieu. J'ai demandé si on pouvait afficher une petite photo. Je sais que certains auraient peut-être aimé voir nos trois grands qu'ils connaissent. Donc les voilà en photo. Et il y a une pomme et une banane sur la photo. C'est tout simplement les deux jumeaux qui sont arrivés après. Et j'aimerais ce matin, à travers la prédication de la parole de Dieu, vous témoigner aussi de ce qu'on a vécu ces derniers mois avec la naissance des jumeaux. Un temps où Dieu a vraiment parlé. Un temps où Dieu m'a transformé, nous a transformé et nous fait passer chaque jour, chaque instant, quand on lui appartient, nous guide pour aligner nos tuyaux, pour que l'Esprit de Dieu puisse rentrer dans nos vies, dans tous les recoins, parce que comme il l'a dit ce matin, et je n'irai pas à un contre-message de ce qui a été dit, Dieu veut notre cœur entièrement. Il ne veut que ça. Je repensais à ça ce matin dans Éphésiens 1, verset 3. Il est dit... Paul est en train d'écrire une lettre, il écrit à l'église d'Éphèse, mais il a la volonté d'écrire à toutes les églises, c'est une des dernières lettres qu'il écrit, et quand il écrit, il est en prison. Et quand tu es en prison et que tu sais que ce n'est pas les prisons d'aujourd'hui et que tu risques ta vie à chaque instant, Paul écrit un message, il essaye d'avoir les mots les plus percutants. Et dès l'introduction, il dit... et là, c'est là où la Bible ne s'affiche pas, et je suis super content. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. Qu'est-ce que dit ce verset? Il dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. C'est-à-dire que vous et moi qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Il n'y a rien qui t'est refusé dans le ciel. Tu es béni au-delà de ce que tu peux imaginer. Par Jésus, parce que Jésus est venu à racheter, à payer le prix pour toi, tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Et Paul va dans ses six chapitres d'Éphésiens, va expliquer pendant trois chapitres de quoi nous sommes bénis. Comment est-ce que l'évangile est venu nous réconcilier avec Dieu le Père? Et comment est-ce que, à travers cette relation que nous avons avec lui, nous pouvons vivre en nouveauté de vie? Et on arrive au chapitre 4, 5, 6 où là, il y a un changement de shift. Il dit, maintenant que vous savez de quoi vous êtes bénis, de toutes ces bénédictions spirituelles, il dit, maintenant, je vais vous montrer comment marcher dans ces bénédictions spirituelles. Parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, mais est-ce que nous vivons la plénitude de l'évangile? Peut-être ici, mais moi pas. Au Chandelier, je vous le dis aussi, pas non plus. Nous avons besoin de vivre la plénitude de l'évangile, ce à quoi nous sommes appelés. Et Paul dit, voici toutes les bénédictions que nous sommes appelés, dans lesquelles nous sommes appelés à marcher. Et maintenant, je vais vous parler comment marcher au quotidien, comment vivre cette plénitude à laquelle nous sommes appelés. Et il commence dans le chapitre 4 où il dit, chapitre 4, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. J'aime parce que Paul, il ne se présente pas comme étant moi qui sais marcher selon les bénédictions spirituelles de tous. Non, moi, je vous encourage, je vous exhorte, parce que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle, donc à marcher. Mais je ne vous le dis pas comme étant un héros. Je ne vous le dis pas comme étant celui qui a tout compris. Je vous le dis comme étant celui qui est prisonnier, celui qui souffre, celui qui est en train de galérer, celui qui paye le prix pour la plénitude de l'évangile. Et la première chose qu'il dit, vous savez c'est quoi? C'est ouf. C'est ouf. La première chose qu'il dit quand il parle de la plénitude de l'évangile, il dit, donc je vous appelle à marcher d'une manière digne dans la plénitude de l'évangile, supportez-vous les uns les autres. Combien vous et moi si on avait un conseil à donner aujourd'hui? Combien ce ne serait pas celui-ci en premier? Il dit, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aïe, 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 aïe. Ça commence mal, Paul. T'es sûr que t'es encore lucide en prison? T'es sûr que la persécution que t'as vécue t'a pas rendu un peu maso, là? Non. Paul dit, la première chose que je vous demande pour que nous puissions vivre la plénitude de l'esprit, c'est que vous puissiez vous supporter les uns les autres. En vous efforçant. Efforcer, ça veut dire quoi? Faire un effort? On est d'accord ou pas? Ah, pour les autres, ouais. Faut que les autres fassent des efforts pour moi. En vous efforçant de conserver l'unité de la paix. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on la conserve, l'unité? J'ai bien peur que parfois on n'ait pas compris que parce qu'on est en Jésus-Christ, on est unis. Parfois on a l'impression qu'on doit s'unir les uns aux autres. On doit être bien les uns avec les autres. On doit trouver son petit gang, son petit club, son petite église. Et que là, on fait la preuve d'unité. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a plus juif, grec. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et nous sommes appelés, parce que nous sommes en Christ, à nous unir les uns les autres, à rester dans ce qui nous unit. Et la suite du verset, je sais pas, c'est pas mon passage ce matin, mais j'ai vraiment ça qui déborde là. La suite du passage nous dit, parle de, en fait, il y a des différences dans le royaume de Dieu. Il y a des choses, il y a des différents charismes. Je vais parler des charismes ce matin. Il y a différentes façons de voir les choses. Mais c'est cette diversité qui fait la force de l'unité. Parce qu'il est celui qui gouverne. Il est celui qui agit. Et la Bible ne nous dit pas, eh ben, quand nous ne sommes pas d'accord, séparons-nous. La Bible ne nous dit pas que quand nous ne sommes pas en accord l'un avec l'autre dans la vision, crachez-vous dessus. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. La Bible nous dit que alors que nous soyons parfois même dans des contradictions, nous n'avons pas à chercher qui a raison et qui a tort. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas, prenez-vous la tête à savoir qui a raison, qui a tort. La Bible dit, c'est moi qui construis mon église. C'est moi qui construis mon église. Et c'est moi la vérité, c'est moi le chemin. Ce n'est ni toi. Dans toute cette diversité et des fois dans les différences d'opinion que nous pouvons avoir, efforcez-vous de conserver l'unité de la paix. Et je crois que ce message de la plénitude de l'évangile, nous avons besoin de le revivre chaque jour et chaque jour. Et j'ai apprécié ce qui a été dit ce matin parce que je crois vraiment, il y a dans les quatre premiers chapitres d'Hébreux, les six premiers chapitres d'Hébreux, un appel à revenir encore et encore à la parole de Dieu. Quatre fois, Paul, si c'est Paul qui les a écrits, on ne sait pas trop qui les a écrits, mais quatre fois, il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. c'est aujourd'hui. C'est pas hier, c'était pas il y a 5 ans, 10 ans, c'était aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Paul reprend, en prenant ce passage-là, il reprend un passage qu'il cite dans l'Ancien Testament en prenant le peuple d'Israël pour exemple. Qui aurait aimé vivre ce que le peuple d'Israël a vécu? Jamais? Non, les 40 ans dans le désert, c'est pas pour moi. Il n'y a pas de souci, je comprends. Mais en tout cas, qui aurait aimé voir la puissance de Dieu comme le peuple d'Israël l'a vu? Amen, c'est quelque chose à ce à quoi on aspire. Oui ou non? Un Dieu qui fait des miracles, Dieu qui vient nous délivrer de l'oppresseur, qui nous amène dans un chemin de liberté, nous qui étions esclaves, et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et Paul dit, ce peuple-là qui a vu de ses yeux la puissance de Dieu, Dieu le rappelle encore chaque jour à lui dire, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, parce que cet appel, il est là pour toi. Encore aujourd'hui. Et nous avons, je crois qu'il y a une difficulté dans le royaume de Dieu, c'est celle de la religiosité, celle où on croit que finalement l'évangile est venu dans nos vies pour nous amener à vivre une vie chrétiennement raisonnable. Je crois sincèrement que notre Dieu n'est pas le Dieu du raisonnable. Je sais que ça pourrait très bien être mal interprété ce que je dis, peut-être que tu me reprendras un jour, mais je ne crois pas que Dieu est un Dieu du raisonnable. Notre Dieu est un Dieu de la relation. L'évangile est là pour que toi et moi nous soyons en relation avec lui. Pas pour que tu puisses revêtir un habit de religiosité chaque jour. Pas pour que tu puisses construire une pseudo-sagesse basée sur la parole de Dieu, mais qui est en fait juste le fruit de ton raisonnement. Le début de la sagesse, c'est là la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que pour être sage, la première base, la première pierre, c'est que pour être sage, il faut craindre l'Éternel. C'est une relation, ce n'est rien d'autre. Et nous vivons de l'Évangile, nous vivons, nous cherchons à ressembler à Christ, nous cherchons à vivre en communauté, en église, non parce qu'il est bon et il est bien de le faire, non parce que les siècles nous ont appris certaines leçons, mais parce que c'est la volonté de Dieu que nous marchions chaque jour avec lui, que nous nous aidions les uns les autres à marcher en liberté les uns avec les autres pour être en relation avec lui toujours plus. Au final, l'Évangile, c'est l'obéissance. Pas l'obéissance à ce que le pasteur dit, bien que la Bible dit d'être soumis à ses autorités. Ça va, je me rattrape, Jo. Mais l'obéissance à ce qu'il dit, lui. Chaque jour, chaque instant. Ce qu'il t'a dit hier n'est pas valable encore pour aujourd'hui. Bien sûr, quand Dieu parle sur certains choix de vie, on lui obéit, on lui fait confiance. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de statique. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu est un Dieu vivant. J'ai des enfants et Dieu m'apprend beaucoup à travers les enfants. Mais quand je dis à Tobias, à mon aîné, quand je lui dis « Attention, je ne veux pas que tu prennes un couteau pointu pour manger. » Est-ce que c'est ce que je vais lui dire toute ma vie? Oui ou non? Non, pourquoi? Parce qu'il grandit. Eh bien, la volonté de Dieu, elle n'est pas statique, les amis. Elle est dynamique. La problématique, c'est que parfois, nous trouvons notre sécurité dans les choses bien visibles, les choses terrestres, les choses sur lesquelles nous appuyons. Ah, il y a cette embase-là, je peux m'appuyer dessus et puis je m'appuierai toute ma vie dessus. Sauf que Dieu se plaît à venir enlever toutes nos sécurités pour que nous puissions trouver notre sécurité dans lui seul et l'unique Dieu. Parfois, nous avons tellement tendance à nous faire des idoles. Mais les idoles évangéliques, on peut parfois être critique envers les catholiques pour l'idolâtrie. Mais j'aimerais vous dire, il y a autant d'idolâtrie dans le milieu évangélique. Nous nous faisons un Dieu avec notre petite pensée humaine. Et Dieu dit, je suis jaloux. Je suis jaloux, je ne veux pas être ce Dieu-là que tu penses que je suis. Il dit, je veux être le Dieu qui est le seul Dieu et l'unique Dieu. Et ce n'est pas à toi de définir qui est Dieu. La seule chose que je te demande, c'est obéis. Obéis. Vis cette relation avec moi. Grandis dans cette relation d'obéissance. Et je guiderai tes pas, même si tu ne les vois pas. Finalement, mon constat, c'est que parfois, en tant que chrétien, nous pouvons vite vivre dans l'illusion. Nous construire tout un système de pensée, toute une façon de vivre les choses. Mais on vit en inadéquation, entre ce que l'on dit que l'on est, entre ce que l'on fait et qui on est réellement. Et parfois, et c'est ça la religiosité, c'est de vivre des choses qu'on n'est pas. La différence entre quelqu'un qui est religieux et celui qui ne l'est pas, c'est la motivation de son cœur. Les pharisiens obéissaient totalement à la loi, le problème c'est que leur cœur n'y était pas. Et s'ils avaient obéi totalement à la loi, ils n'en seraient pas là où ils en sont. Et parfois nous vivons dans l'illusion de quelque chose que nous croyons, nous proclamons, et on peut... J'aime ces temps de louange. Ces temps où on loue Dieu, où on vient dans la présence de Dieu, parce que ça doit être la première chose, un fondement dans notre vie. Mais Dieu aime les louanges qui lui sont vraies. Il n'aime pas notre illusion. Il y a des versets dans la Bible où il parle à travers les prophètes. Je hais entendre leur chant. Je hais leur sacrifice. Je hais leur louange parce qu'ils louent un Dieu que je ne suis pas. Dieu veut que nous vivions une relation, un évangile en vérité. Et ce matin, sur cet aspect-là, je pourrais partir dans plein de choses. Mais ce matin, j'aimerais parler sur la gestion des émotions. La gestion de comment est-ce qu'on vit les émotions à l'intérieur, comment est-ce que Dieu nous appelle à vivre ces choses-là, surtout quand nous sommes au milieu de la tempête. Qui a déjà traversé des tempêtes ? Je pense que tout le monde pourrait lever la main. Hein ? Je ne crois pas avoir vu des gens encore qui n'aient traversé de tempête. Peut-être mes deux jumeaux pourraient dire et encore. Qui est actuellement dans une tempête ? Il y en a, hein ? Hein ? Si vraiment on voyait tous... Bien sûr qu'on est plus ou moins des fois dans une tempête dans nos vies. Et nous traversons des moments où il est difficile de savoir où nous devons mettre les pieds. Mais un des socles communs que nous avons, et je disais tout à l'heure qu'on n'est pas là pour chercher qui a raison, qui a tort, le socle commun que nous avons, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui est là pour venir nous rendre lucides sur nous-mêmes. Pour venir, il est dit que la parole de Dieu est comme un miroir. Dans Galates, mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. C'est intéressant quand même. C'est pas ne vous contentez pas de l'écouter en étant abusé par les autres. Non, c'est en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. La plupart de ceux qui m'ont connu là, je n'avais pas de barbe. Ma barbe, elle est très récente. Okay, ça fait à peu près une année que j'essaye de voir. Vous savez quoi, avant, le miroir, c'était bien le matin, mais je me suis rendu compte que quand on a une barbe, le miroir, c'est pratique régulièrement. Surtout après avoir mangé, si vous voyez ce que je veux dire. On peut vite avoir des choses dans la barbe sans qu'on s'en rende compte. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a de la nourriture dans notre barbe si on ne regarde pas le miroir ? Comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des péchés dans nos cœurs si on ne vient pas à la parole de Dieu chaque jour et chaque instant ? Alors oui, le pasteur peut te dire quelque chose, ton ami peut te dire quelque chose. Mais mon ami, ce à quoi tu es appelé, ce n'est pas à ce que le pasteur vienne te dire tout ce qu'il y a dans ta vie. Sinon, vous allez envoyer Joe, Elisa et toute l'équipe en burn-out. Je vous le dis. Le but, c'est que tu aies une relation avec Dieu qui vienne te montrer réellement ce qui tu es, ce que tu vois dans ce que la parole veut te montrer. Alors, qu'est-ce que la Bible dit justement sur la manière dont nous devons gérer nos émotions, nos sentiments, la manière dont nous devons gérer finalement cette tempête-là à l'intérieur ? La Bible nous parle de livre de sagesse. Et cette sagesse, comme je disais, elle réside sur la crainte de Dieu. On a les cinq livres de sagesse dans la parole de Dieu qui sont C'est une question. Psaume, proverbe. Romain, il a fait le cours. Il a fait des cours. Toi aussi, Jo. Alors, dites-moi, qui sont les livres de sagesse? Sagesse, proverbe, psaume, c'est racine, non? Pas pour nous. Ecclésiaste, très bien. Cantique des cantiques. Et il en manque un. Il en manque un. Qui est souvent pas compris comme étant un livre de sagesse. Proverbe, on l'a dit. Non, Job. Job, qui est un livre hyper important parce que c'est important. J'aimerais vous en parler un petit peu ce matin. Les proverbes nous montrent un tableau complet, on va dire, de ce que c'est la sagesse selon Dieu. Mais encore une fois, il commence en disant le début de la sagesse, c'est une relation avec Dieu. OK ? Mais quand on comprend la sagesse, il y a un autre livre qui s'appelle le livre d'Ecclésiaste qui finalement nous dit « Tout est vanité et tout est vapeur. » Et que l'être humain ne peut rien concevoir par lui-même parce que tout s'évaporera. Tout disparaîtra. La seule chose qui restera, c'est la parole, le soleil, c'est Dieu. Et qu'il n'y a que ce que Dieu, il n'y a que ce que Dieu construit qui demeure éternellement. Et donc, pourquoi est-ce que nous serions appelés à vivre dans une sagesse venue de Dieu si, quelque part, le livre d'Ecclésiaste nous dit que tout est vanité? Parce qu'encore une fois, Dieu nous appelle à vivre une relation et non pas une pseudo-sagesse construite sur des choses complètement parfois humaines. Dans cette relation avec là, il nous guide dans sa sagesse à travers la parole. Et le livre de Proverbes, le livre de Job est intéressant parce que Job est appelé le juste et l'intègre. C'est-à-dire qu'il est l'image de celui qui a obéi et qui connaît toute la sagesse dans les proverbes. Il est l'image de celui qui est le juste selon la Bible. Mais qu'est-ce que Job vit finalement? Qu'est-ce que Job vit? On dit souvent que Job, c'est le livre de la souffrance, et je le crois vraiment, mais je ne crois pas que le livre de Job réponde à la question « Pourquoi nous souffrons ?» Le livre de Job répond à la question « Voici comment vous devez traverser la souffrance. » Job, qui était l'homme juste, qui était intègre, qui était... Quelque part, Dieu était fier de comment Job menait sa barque et menait sa vie. Satan vient auprès de Dieu et lui dit « Mais je crois que finalement, Job te craint parce qu'il a un intérêt à te craindre. » Ah oui, si Job te craint, tu le bénis, c'est facile de te craindre. C'est ce que Dieu vient lui dire. Et quelque part, Satan vient remettre aussi en question, mais en fait, les gens te craignent parce que tu es bon. Il y a un double, vous comprenez? C'est que finalement, Satan vient mettre un enjeu là. Est-ce que nous craignons Dieu pour ce qu'il nous donne? Et si nous craignons Dieu pour ce qu'il nous donne, Dieu, alors, mérite d'être craint parce qu'il nous donne quelque chose. Mais est-ce qu'on craint Dieu pour qui il est? Et Satan vient, touche la vie de Job. Et Job, vous connaissez hein, peut-être, ou pas peut-être, mais Job perd ses biens, perd sa famille, il est touché dans sa santé, il se retrouve d'une bénédiction extrême. J'allais dire, dans notre société actuelle, il était vu comme dans l'élite du peuple d'Israël, et il se retrouve à la rue. Et Job est là, et il pleure, il crie, et dans tout le livre de Job, il exprime sa souffrance. Job a trois amis. Les trois amis, on dit souvent que les trois amis de Job, ils n'étaient pas cool. Mais quand tout ça est arrivé à Job, Job s'est assis pendant 7 jours. Les trois amis étaient avec lui en silence. Vous avez beaucoup d'amis qui restent avec vous en silence dans les temps difficiles? Oui ou non? Il faut me les présenter. Je veux bien être leur ami à eux aussi. Non, il y a des amis qui restent 7 jours avec nous dans le silence, il n'y en a pas. Mais au bout de ces 7 jours-là, les amis vont voir Job et essayent de le questionner, de l'amener un peu plus loin, dire « Mais voilà, maintenant Job, c'est le deuil, tu souffres et nous on veut t'aider, on veut être là. » Et ils essayent de l'amener à réfléchir, mais la souffrance de Job est telle, la tempête est telle, elle fait tellement rage que Job, l'apport des amis de Job, il ne le comprend pas. Il ne le supporte presque pas. Il est en réaction, il est aigri. Il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Je ne mérite pas ça !» Et en fait, dans tout son... Je ne suis pas là pour faire toutes les histoires de Job, mais dans dans tout le process, il en arrive à un moment donné où les amis commencent à être un peu plus virulents et Job crie et dit « Dieu, j'en demande à ce que tu me répondes maintenant, pourquoi tu as fait ça ?» Job lance un procès à Dieu. Job réclame son droit. Comme si Job se mettait d'égal avec Dieu et lui disait « Maintenant, il faut que tu m'expliques pourquoi je souffre. Pourquoi tant d'injustice? Pourquoi alors que je t'obéissais, pourquoi maintenant je suis en train de vivre ça ?» Et dans tout le livre des Job, Job pose 60 questions à Dieu. Et Dieu vient et répond à Job. Et vous savez comment il lui répond? Ah, ça c'est Dieu ça. Il lui répond premièrement dans la tempête. Déjà, c'est quand même assez hallucinant. Pourquoi une tempête là au milieu alors que Job est en train de souffrir? Dieu démarre une tempête. Et Dieu vient voir Job, vous pouvez regarder dans Job 37 et 38, et il lui pose 60 autres questions. Il lui disait, mais t'étais où en fait quand j'ai créé les animaux? T'étais où quand j'ai créé les crocodiles? T'étais où quand moi j'ai créé l'eau? Quand j'ai créé la terre, le ciel? T'étais où Job? Et Job, ça pique, hein? Ça pique comme réponse quand même. Et là, Job vit mal les choses. Et Dieu recontinue, il dit, mais tu sais, tu étais où quand j'ai créé le Léviathan? Des créatures que tu ne connais même pas, qui sont des choses que tu n'imagines même pas. Et à la fin, Job dit, effectivement, reconnaît qu'il avait entendu parler de Dieu, mais que maintenant, son œil avait vu. Pourquoi Job dit ça? Parce que Job avait voulu faire un procès à Dieu, avait voulu exercer son droit, mais il a reconnu la souveraineté de Dieu malgré tout ce qu'il vivait. Et il s'est dit, si mon Dieu est au-dessus de tout, alors il me fera justice quand il voudra, maintenant que je le connais lui. Et c'est ça le plus important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas que tu aies la réponse à la justice de tout. Au ciel, nous serons dans un ciel parfait. Dieu fera justice devant les hommes. Tu auras, nous aspirons à l'éternité, c'est notre consolation parce que Dieu réduira au silence tous ceux qui nous ont détraqués, les amis. Il fera justice à tout le monde. Ceci dit, il fera justice à ceux qui nous ont fait du mal, mais il fera justice à ceux à qui on a fait du mal, les amis. Hein. Dieu est un Dieu juste. On dit souvent que le Nouveau Testament, Dieu nous présente un Dieu de grâce. Oui, mais c'est le même que dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé de personnalité au milieu. C'est juste que le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, il a ouvert un temps de grâce, un temps de paix, un temps où il dit à chacun, je veux que le plus grand monde revienne, je veux que le plus grand monde soit sauvé, mais un jour, ce temps va se terminer, les amis. Et là, le Dieu de sainteté, le Dieu de justice, son attribut qu'il a et qu'il demeure encore, va s'exercer encore avec plus d'intensité qu'aujourd'hui. Avons-nous là cette crainte de se présenter devant Dieu? Laissons-nous être Dieu. Et dans tout ce que Job vit, la Bible nous parle de Job exprime ses émotions, exprime ses sentiments. Est-ce que c'est mal d'exprimer ses émotions, ses sentiments? Non. C'est pas ce que la Bible dit. Vous avez le livre de Lamentations de Jérémie. Qui aime lire ce livre? Ah, c'est pareil, hein, ça c'est une question. Jamais personne n'aime lire ce livre. Les lamentations de Jérémie, c'est que le peuple d'Israël est en déportation. Voilà. Et Jérémie se plaint à Dieu. Il lui dit, mais pourquoi tu fais ça, Dieu? Pourquoi est-ce qu'on est en déportation? Je sais que c'est parce qu'on a été méchant et qu'on a été mauvais, mais on souffre, Dieu. Pourquoi on souffre? Et ce qui est intéressant, c'est que dans la structure du livre des lamentations, il est composé en acrostiches. Qui sait ce que ça veut dire, acrostiche? C'est-à-dire que c'est une manière poétique de présenter les choses. On fait A je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. C'est par exemple un acrostiche, je ferais connect. Alors C c'est la convivialité. O c'est l'obéissance. N c'est je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les noces. Bon, le problème, c'est qu'il y a deux N, il faut en trouver un autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on prend une lettre et qu'on écrit quelque chose derrière. Eh bien, le livre des Lamentations de Jérémie est composé avec 4 ou 5 acrostiches différents, avec une poésie qui est très stylistique, avec une façon très cadrée d'écrire les choses. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème à exprimer sa plainte à Dieu. Il n'y a pas de souci à exprimer sa plainte à Dieu tant que c'est fait dans le cadre qu'il a défini pour chacun d'entre nous. Le cadre de sa souveraineté. Le cadre de « il est roi et il restera le roi ». Le psaume de David nous parle que de ça. Alors je dis les psaumes de David, mais en réalité, David est l'auteur que du premier livre des psaumes. Il y a plein d'autres psaumes qui ont été écrits où David a une influence directe, mais ce n'est pas forcément lui qui les a écrits. J'aime les psaumes parce que les psaumes, c'est la vie. C'est l'abondance, c'est le cœur qui parle. Les psaumes, c'est tellement de belles choses synonymes. On chante des psaumes. Je rappelle que les psaumes, c'est des chants, c'est des prières. Pendant 19 siècles, les chrétiens récitaient les psaumes. Ça fait que depuis un siècle que nous composons des chants nous-mêmes et que nous les chantons. Mais pendant 19 siècles, les gens récitaient les psaumes. La spiritualité de Jésus était basée sur les psaumes. Il y a plus de 300 allusions aux psaumes dans le Nouveau Testament. Et Jésus, le livre que Jésus cite le plus, c'est les psaumes. Parce que les psaumes sont l'expression d'une spiritualité qui est faite dans le cadre de Dieu. Pourtant, quand on lit les psaumes, il y a des passages de vengeance. Oui ou non? Il n'y a pas des moments où David exprime la haine. Il n'y a pas des moments où... Ah, Siri se met en action. Il n'y a pas des moments où David dit littéralement des choses moches, des choses pas bonnes, où il exprime son cœur avec toute la sincérité, l'honnêteté qu'il y a. Il y a dans l'histoire chrétienne, au Xe siècle à peu près, il y a des prêtres qui ont essayé de retirer tous ces passages qui étaient gênants dans les psaumes. Ces passages qu'on appelle les psaumes imprécatoires, les psaumes où David appelle au jugement, où David appelle à la justice. Et ils se sont rendus compte que s'ils faisaient ça, ils enlevaient un tiers des psaumes. Du coup, ils ont abandonné le projet. Ils se sont dit, non, on va dénaturer le livre. Tu ne peux pas enlever la partie noire, la partie difficile de notre humanité. Ce n'est pas possible. Mais par contre, David, tout ce qu'il vivait, il l'écrivait. Il venait devant Dieu dans sa relation avec Dieu. Il épanchait son cœur. Il disait, mais lui, il m'a saoulé. Lui, il veut ma mort. J'ai l'impression que quand on lit les psaumes, on a l'impression que David était menacé toutes les 5 secondes. Hein. Oui ou non? Alors oui, il était le roi d'Israël. Oui, il avait des ennemis. Mais quand je lis Samuel, quand je lis les chroniques, j'ai pas l'impression que David était autant menacé qu'il ne le dit dans les psaumes. Mais par contre, il exprimait les choses. Comment il les vivait? Comment il les ressentait? Il exprimait ça. Et à chaque fois, dans tous les psaumes, vous pouvez regarder, à chaque fois, il disait, j'en ai marre, je veux abandonner, je me sens sali, mes ennemis me crachent dessus, je me sens meurtri. Mais, je me confie en toi. Mais, ce qui est important, c'est ce que toi tu dis. Mais t'as pas dit ton dernier mot. Mais tu feras justice. Il n'y a pas de sentiment d'émotion que Dieu ne connaît pas, mes amis. Et parfois, parce que nous ne vivons pas une relation avec Dieu, nous avons l'impression que nous devons être religieusement corrects. Mais quand tu es dans la tempête, il n'y a plus de religieusement correct. Hein. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec toi. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui exprimes tes émotions, tes sentiments. Ce que Dieu veut, il veut que tu lui exprimes la noirceur de ton cœur. Et qu'ensuite, tu puisses la rectifier, l'aligner. Ce matin, la parole, aligner la parole de Dieu avec la vie de l'Esprit, c'est ça, les amis. Si tu es chrétien et que dans ta marche chrétienne, tu as l'impression d'être toujours plus bon, le meilleur, j'aimerais te dire, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris, en fait. Parce que l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est, en fait, je me rends compte à quel point la grâce de Dieu, elle a besoin, et encore, et plus j'avance avec Dieu, plus je me rends compte que mon cœur, franchement, je suis pécheur. C'est quand je suis faible que je suis fort. Paul n'a pas dit, c'est quand je suis fort que je suis vraiment fort. Il n'a pas dit, c'est quand je suis fort que la puissance de Dieu vient et fait des miracles. Il a dit, quand je suis faible, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Grandir avec Dieu, c'est se rendre compte qu'on ne peut rien faire sans lui. C'est quand la dernière fois que tu t'es repenti de tes péchés? Ah, la repentance, c'est un mot ça, oh là là. Sainteté, repentance, c'est des mots qu'on oublie, non? Mais c'est pas dans la Bible, Thomas, c'est une erreur d'interprétation. Non, les amis. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, parce qu'on a les uns les autres, parfois enfoui nos émotions, nos sentiments, parce qu'on a parfois les uns les autres pas laissé Dieu où il devait être, eh ben, on a de la rancœur, on a de l'égoïsme, on a envie de vengeance, on souffre l'injustice, on souffre, on a l'impression que le monde est contre nous. Parce que nos émotions qui sont bloquées à l'intérieur, qui sont là, c'est ça notre Dieu. C'est plus Dieu qui dit, c'est plus Dieu qui parle. Ce qui parle, c'est nos émotions. Et comme on a raisonné ça avec notre cerveau humain, parce qu'on les a bien, maturés, on laisse bien faire des petits, la rancœur, alors Dieu ne peut plus agir, les amis. Parce que ce qu'il veut, c'est qu'il soit devant lui en premier. Ça ne veut pas dire rien dire. Ça ne veut pas dire rien faire. Mais tant de fois où j'ai exprimé mes émotions devant Dieu, des moments terribles dans ma vie, quand je ressortais de sa présence, c'était la paix qui était là. C'était la paix qui était là. C'était ce que je pensais comme insurmontable était devenu une petite colline. Ce que je m'étais dit, ça, c'est jamais je vais réussir à pardonner, il a aplani les sentiers. C'est devenu un sentier dans lequel je pouvais marcher parce que Dieu a aplani cette montagne. Ces derniers mois, je disais, je voulais aussi témoigner de ce que Dieu a fait pour moi et Léa à travers la naissance des jumeaux. Déjà, après de longues discussions, on s'est mis d'accord pour faire un quatrième. J'étais pas chaud, ok? On a des vies, quand t'es pasteur, t'as des vies difficiles, c'est chaud de tout gérer. Je sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais vraiment, je me suis dit, Seigneur, mais est-ce qu'un quatrième enfant va pas nous empêcher de faire tout ce que t'as prévu? Ouais, je viens avec mon petit cerveau, ma petite lorgnette. Et le Seigneur, je prie, il me dit, sois en paix. Ok, sois en paix. Ok, Seigneur. Et ma femme tombe enceinte. C'était une période assez dense en termes de ministère, assez avec des difficultés à gérer à l'église, avec des nouveaux défis qui étaient là. On a fait une passation en janvier, avec des responsabilités nouvelles, avec tout plein de choses qui étaient là. Et ma femme tombe enceinte, elle se dit, il va falloir gérer ça en plus dans le timing. Et là, le 1er avril, je vous assure, c'est pas une blague, le 1er avril, Léa a une échographie et elle m'envoie, et je lui ai dit avant d'y aller, si c'est des jumeaux, je ne rentre pas à la maison. Je lui ai dit, je vous assure, vous pourrez aller la voir. Je lui ai dit, si c'est des jumeaux, je ne rentre pas à la maison. Elle m'envoie un texto pour le coup, avec les résultats d'analyse, comme si elle dit, mais non, sinon il va croire que c'est une blague. Donc je reçois l'analyse et je vois embryon A, embryon B. J'étais en train de courir, j'ai failli me faire renverser par une voiture. Et je l'appelle quand même, je dis, mais t'es sérieuse? Enfin, embryon A, embryon B? Elle me dit, oui, c'est vrai. Et là, elle sait que quand je vais courir, je parle à Dieu. Et elle me dit, t'as 45 minutes pour parler avec Dieu maintenant. Et bam, elle raccroche. Et je cours. Et ça m'a coupé les pattes. J'ai même pas réussi à courir. Mais je dis, Seigneur, mais non! J'étais heureux d'avoir des enfants. Mais franchement, ça m'a plongé dans une tempête. Une vraie tempête. Je sais que les enfants sont une bénédiction et je ne suis pas en train de dire que mes enfants ne sont pas une bénédiction. C'est que moi, de mon point de vue à moi, je n'avais pas compris qu'il m'avait dit « tu vas être en PLS ». Et je me souviens, alors que j'étais là, je priais et à un moment où je pleurais, en fait. Tout simplement, j'essayais de pencher mon cœur, je pleurais. Et c'est comme si j'ai vu cette image. Je regardais The Chosen à ce moment-là. Et j'ai vu Jésus aller chercher Pierre dans la tempête comme ça. Et il lui a dit, il l'a pris, il a dit, je suis avec toi. J'ai vu ce truc-là, je me suis mis à chialer. Je dis, Seigneur, t'es avec moi. Ça ne s'arrête pas là, les amis. Ça, c'était en avril. Mois de juillet, première échographie, les médecins nous disent qu'il y a un problème. Problème de croissance. Donc ils disent, on ne peut pas voir pour l'instant, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, donc il va falloir qu'on attende. Je vais en formation en théologie 2 semaines. Pendant 2 semaines, Dieu me parle. C'était les écrits de sagesse, les psaumes, Job, tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai appris, on me l'a enseigné, mais Dieu me parlait, Dieu est en train de me préparer pour ce que j'allais vivre. Et je sens fort dans mon cœur, alors que les profs parlent le soir, le Seigneur me dit, mais mets en place une nouvelle routine. Mets en place une nouvelle routine. Lis les psaumes. Apprenne-toi des psaumes. Écris ce que tu vis. Écris tes propres psaumes. Le Seigneur me dit ça. Mais moi, je suis résistant, vous savez, j'ai besoin de... Et ma femme, un jour, je me souviens d'un moment charnière en pleine formation de 2 semaines. Alors c'est 2 semaines où je pars, donc je laisse ma femme enceinte avec les 3 enfants. Vous voyez, imaginez un peu le voilà. Pour ceux qui voudraient me jeter des pierres, il y avait les grands-parents qui étaient là pour aider, ok. Mais elle m'appelle, elle me dit, on vient de se faire cambrioler. J'étais à tant de distance, j'ai dit, Seigneur, tu fais quoi? Et ma femme est toute seule là-bas et elle dit, mais je suis dégoûté, j'ai passé 10 jours à ranger la maison, je rentre dans la maison, tout était par terre, elle était déprimée. Mes parents sont venus l'aider à ranger, donc finalement je suis quand même resté le jour suivant et je suis revenu happé. Et on continue comme ça. Et vraiment j'avais ce truc dans mon cœur, Seigneur, je préparais le temps qu'on allait vivre. Et à un moment donné... on arrive fin août, fin septembre, où les examens confirment que le problème de croissance s'accentue. Et à partir du mois d'août, on passe en vigilance grossesse à très haut risque. Et là, c'est sur des échos toutes les 2 semaines. Et les médecins nous disent, en fait, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est que donc déjà, c'est des jumeaux, mais le petit garçon ne grandit pas comme il faut. La petite va bien. La petite, c'est comme si la petite pompait l'énergie du petit et le petit ne grandissait pas super bien. Et on dit, on va faire confiance à Dieu. Alors, je vous assure, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments où on passe dans la crainte. Et arrive ce moment, je vous fais vraiment un raccourci, mais arrive ce moment fin septembre où on sort d'une écho le matin. Avec des bonnes nouvelles réjouissantes, on se dit super, il y a des choses qui avancent, ça peut être en train de se débloquer. On rentre à la maison, on se pose et on reçoit un coup de fil. Et là, le coup de fil qui nous a fait un up and down terrible. Il nous annonce que notre petit a la trisomie. Et là, on se dit pas. J'ai reçu un chaos, les gars. J'ai reçu un chaos. Pendant 2 jours, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me rentrais, je dis, Seigneur, on te sert. Déjà, je voulais qu'un, t'en mets deux. On sert ton nom, on est à fond. Et qu'est-ce que tu es en train de faire, là? Eh oui, je sais, il y en a... Oui, mais... Alors, la dame, oui, mais il y a encore 1% de chance qu'il soit trompé. Ok. Et je sais que beaucoup étaient comme les amis de Job. Oui, tu sais, 1%, le Seigneur l'a déjà fait, il l'a fait, on a déjà entendu des histoires, et je suis tout à fait OK avec ça. Mais je ne sais pas pourquoi dans mon cœur, c'était en mode... En fait, je ne savais même plus pourquoi prier. Et le Seigneur me dit, fais-moi confiance. Je vous lis mon petit psaume du matin, avant même l'annonce. OK ? Alors attendez, c'est juste la page avant. Juste le matin avant que j'ai l'annonce, je lisais les psaumes et j'écrivais ça. Tu es le créateur de la vie. Rien ne t'échappe. Tu façonnes tout comme tu le veux. Le péché n'est pas présent quand tu es là. Ta grâce est toujours la même lorsque le péché influence notre sort. Père, j'ai confiance que tout ce que tu fais poursuit notre bien. Apprends-moi à voir ce que tes mains font. Il n'y a qu'en toi que la souffrance est synonyme de victoire et bonté. Je ne veux pas la faire, je ne veux pas faire souffrir les gens, mais je veux l'accueillir avec plaisir car elle me rapproche de qui tu es. Façonne-moi comme tu es et apprends-moi à te louer, glorifier avec vérité et ardeur malgré les difficultés. Je dis ça le matin. Dieu m'a écouté, il m'a pris au mot. L'après-midi, j'étais effondré. Je suis passé dans un tunnel. Je me souviens, le lendemain, je vais chez mes parents, je m'assois, ils avaient mis de la louange. Je pleure, je ne sais pas pourquoi. Le dimanche matin, on est là au culte. Et vous savez, il y a des dimanches matins où la louange, elle n'a pas la même saveur. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Elle est quand même plus salée, plus dure, où c'est un sacrifice de louange. Et j'étais là dans les rangs avec ma femme et on se met l'un à côté de l'autre, ce que je ne fais jamais, parce que comme étant pasteur, je suis souvent à droite à gauche. Je me mets à côté d'elle et on prie. Et là, on est dans la louange et c'était merveilleux nom, consolateur, le étoile du matin, roi, seigneur couronné. On chantait ça et le Seigneur me dit, Thomas, il me dit, je vous estimais digne de porter ce fardeau. Et là, ça a changé mon cœur. Je me suis dit, mais en fait, c'est moi l'incrédule dans tout ça. C'est moi qui n'ai rien compris. C'est moi qui viens avec mes projets humains, avec mes conceptions humaines. Et en fait, parce que j'ai expérimenté les choses, parce que je ne me suis pas laissé être amer, parce que je ne me suis pas rebellé contre lui, le Seigneur vient et me dit, t'inquiète pas, je serai avec toi. Et je vais l'utiliser pour ma gloire. C'est une aventure qui commence. Ta sécurité était dans ce que toi tu voyais, dans les échographies, dans ce que les gens disent, dans ce que les médecins disent. Ta sécurité, elle est dans le concevable, dans le raisonnable. Mais moi, je te dis que je serai le Dieu qui sera ta sécurité chaque jour, chaque instant, chaque moment. Et que peu importe ce qui sera ébranlé, c'est en moi que tu dois me faire confiance. On arrive à l'accouchement avec des complications. Les jumeaux arrivent. J'écrivais les choses. J'envoyais à Léa pour qu'elle puisse lire parce que je n'étais pas toujours en capacité d'exprimer les choses. Mais on est passé par des up and down tout le temps. Pendant 5 mois, c'était ça. Les petits naissent, tout va bien. 2 jours après, on apprend que finalement la trisomie, elle n'était pas sur le petit, elle est sur la petite. Vous savez, vous êtes content quand vous dites, ouais, j'ai pas l'air d'avoir la trisomie chez mon petit. Mais j'avais vu un regard bizarre de la part des sages-femmes et des. J'ai dit, Aléa, ça, c'est bizarre quand même. Et 2 jours après, les médecins viennent dire, bah, en fait, la trisomie est sur votre fille. Une chance sur 1 million d'avoir des jumeaux, dont un est trisomique. Ah, quand on joue, on peut gagner. Hein. Soit je crois que Dieu ne m'aime pas, soit que je crois que Dieu a un plan extraordinaire que je ne peux pas imaginer. Et à travers ça, à travers les difficultés qui étaient là devant nous, et je vous assure que ce n'est pas toujours évident, Lily, ça s'appelle Lily, elle n'a aucun problème de santé, aucun problème au ventre, aucun problème au cerveau, aucun problème, tout va bien. Et même encore qu'il y aurait eu ces problèmes-là, c'est pas grave. En fait, c'est entre les mains de Dieu. Dieu doit rester souverain dans tout ce que nous traversons. Et je vais juste terminer avec cette dernière image très rapidement. C'est bon, Joe ? J'ai l'autorisation. Très rapidement, c'est Jésus qui est dans le bateau. Cette histoire me parle de malade depuis une semaine. Là, j'ai prêché là-dessus la semaine dernière en partie sur la crainte de Dieu et l'obéissance. Mais j'étais le matin même que je prépare le message, Dieu me chamboule et me dit, mais il monte dans la barque. Pensez-vous que Jésus était au courant qu'il allait avoir une tempête ? Oui ou non ? Il est Jésus, il est Dieu, on est d'accord ? Je soupçonne Jésus d'avoir fait exprès d'aller dormir. Il s'est dit, il va y avoir la tempête. Ils vont flipper. Ils vont avoir peur. Et là, Jésus est dans la barque. Dans la tempête, il dort, il est allongé. Et tous les disciples sont là. Qu'est-ce qui se passe ? On va mourir, il y a de l'agitation, ça court dans tous les sens et parfois dans nos tempêtes on est comme ça. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, ça va pas. Seigneur, je souffre. Mais pourquoi lui fait ça ? Mais pourquoi elle fait ça ? Et on est dans l'agitation, on court dans tous les sens, mais c'est pas possible, c'est de l'injustice. Mais tu es dans ma barque, mais pourquoi tu dors ? On n'est pas comme ça. À demander des comptes, t'es dans ma barque, mais pourquoi tu dors ? Pourquoi tu fais rien ? Le livre, le passage dans Marc, c'est dans Matthieu 8 ce que je vous dis, mais le passage dans Marc dit qu'ils vont le réveiller et lui disent « On va mourir, pourquoi t'as rien fait ?» Ça, j'aime, parce que finalement, c'est ça notre cœur parfois. Pas le vôtre, en tout cas le mien. Parfois, c'est ça. Pourquoi t'as rien fait, en fait ? Si tu dis que t'es Dieu vraiment comme tu dis que t'es Dieu, pourquoi est-ce que t'as pas fait comme ça et puis que tout a changé ? Pourquoi pourquoi cette addiction avec laquelle je me bats depuis des années, tu permets pas qu'elle s'enlève ? Pourquoi tu permets pas qu'ils comprennent ? Pourquoi tu permets pas que ma femme change, Seigneur ? Pourquoi tu permets pas que mon enfant aille mieux ? Pourquoi tu permets pas que ma guérison puisse s'accomplir, Seigneur ? Et les disciples réveillent Jésus, ils vont voir Jésus et ils lui disent : Jésus se lève. Jésus se lève et il dit à la tempête : calme-toi. La tempête se calme. Et il va voir les disciples et il leur dit : gens de peu de foi. Pouah ! Tant de fois dans nos vies, on est dans l'agitation, dans les tempêtes. Mais l'agitation, les amis, c'est le fruit de manque de foi. Je vous propose une autre posture. Et si nous allions dormir à côté de Jésus dans nos tempêtes ? Et si nous allions s'allonger à côté de lui et que nous apprenions à dormir tranquillement malgré les tempêtes ? Parce que si Dieu est Dieu, il peut calmer les tempêtes en un instant. Jésus était dans la tempête, il savait qu'il allait avoir une tempête. Il a dormi parce qu'il avait toute confiance en Dieu et qu'il était capable de calmer les tempêtes en quoi qu'il arrive. Et je crois que parfois, nous nous agitons, nous nous énervons, parce que nous manquons de foi, tout simplement. Il est le Dieu qui est capable de calmer ta tempête. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Moi, j'ai traversé par des tumultes, et je sais qu'il y en a qui passent par des tumultes plus graves que nous. On n'est pas là dans la compète les uns avec les autres. Hein. Mais dans ma faiblesse, je veux être capable de venir dans les tumultes, être capable de venir et de m'allonger à côté de Jésus et lui dire « Jésus ». Je vais me blottir contre toi. Ta paix, Seigneur, ta paix dans ces moments. Ta paix dans ces circonstances. Ceux qui s'affectionnent des choses de la chair récoltent la mort. Ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit récoltent la vie et la paix. Il a rajouté la paix. Il y a une paix qui surpasse toute épreuve, toute intelligence. Il y a une paix malgré la tempête qui fait rage. Le tout, c'est que les amis, nous devons apprendre à venir à ses pieds, à épancher nos cœurs, comme les psaumes nous le disent, comme Job nous le rappelle, à le faire en considérant la souveraineté de Dieu, en considérant la puissance de Dieu, et venir près de Jésus et lui dire « Je veux m'endormir avec toi, parce que j'ai confiance que tout ce que je traverse n'aura pas le dessus. » Parce que tu es celui qui m'aime. Seigneur, je te prie pour l'Église, Seigneur, de Connect, Seigneur, et les amis. Seigneur, je te demande ta bénédiction, tout simplement, ce matin. Seigneur, je te prie que tout ce qui a été semé puisse porter du fruit. Seigneur, nous puissions comprendre l'amour que tu as pour nous. Et que si tu nous fais passer à travers toutes ces choses, la souffrance parfois que nous pouvons vivre, les épreuves, les tempêtes, tout aussi difficiles qu'elles puissent être, Seigneur, c'est parce que tu nous appelles à dépendre de toi. Tu nous appelles à cette relation, à cet évangile, non pas un évangile mort, non pas un évangile de religiosité, mais un évangile de relation. Seigneur mon Dieu, je prie que tous ceux qui sont dans la tempête, Seigneur, peut-être qu'on pourrait prier pour que cette tempête se calme. Seigneur, je veux prier pour que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, je prie pour que ta volonté s'accomplisse, que ce que tu cherches, ce que tu fais, Seigneur, à travers les moments de tempête, Seigneur, que ça puisse être ça, Seigneur, qui ressorte, et afin que nous puissions ressortir avec plus de confiance à toi. Seigneur, que toutes les tempêtes qui doivent être calmées se calment maintenant au nom de Jésus. Mais Seigneur, qu'avant tout nous puissions nous allonger près de toi, être en paix avec toi. Seigneur, craindre ton nom. Seigneur, la réaction des disciples, quand tu leur as dit, quand ils ont vu que tu étais capable de calmer la tempête en un mot, ça a été la crainte. Seigneur, apprends-nous à te craindre. afin que la place du roi des rois te revienne, afin que nous puissions connaître ce Dieu tel qu'il est, et non pas comme nous pensons qu'il est. Seigneur, je bénis mes frères et sœurs, je te demande vraiment de les visiter ce matin, et que ton esprit puisse continuer ton œuvre ici. Amen.
Wow. Merci Tom. Je me suis régalé, ce que j'ai énormément aimé, et je sais pas pour vous, mais c'est de voir cette perspective différente qu'on a. Est-ce qu'on peut juste